Seigneur, au moment où nous ouvrons ta parole, nous te prions pour que ton message passe, pour que ta volonté soit faite. Même s'il y a eu des notes sur un morceau de papier, c'est toi qui diriges tout, Seigneur. Bénis-nous, garde-nous et envoie-nous ton Saint-Esprit pour que tes plans se réalisent. Amen. Psaume 115. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas, des mains et elles ne touchent pas, des pieds et elles ne marchent pas, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi à l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. 1 Thessaloniciens 1, 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Premier point, Dieu est un Dieu jaloux. Il nous aime et il veut avoir l'exclusivité de notre amour. Le premier passage de la Bible où apparaît le mot « idole », c'est dans Exode 34, 13. « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, etc., etc. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous n'adorons pas n'importe qui. Les idoles, la première fois qu'on entend parler à l'école du dimanche peut-être, des idoles, on a tendance à se dire, là, tout va bien, je ne me suis jamais prosterné devant une idole. Après arrive, tu ne mentiras pas, tu ne te vengeras pas. Là, c'est notre paire de manches. Hein. Là, il y a quelques os qui traînent, il y a quelques difficultés. Mais la première réaction qu'on a, c'est de se dire, les idoles, je ne me suis jamais prosterné devant une idole. Oui, peut-être. Mais quand l'homme perd la notion du vrai Dieu, il a un vide intérieur et il est obligé de se faire l'image d'une divinité. Il y a un vide. Lorsqu'on perd la croyance, la foi en un vrai Dieu, il y a un vide. Et tout le monde sait que la nature a horreur du vide. Tout le monde le sait. Alors cela se passe dans le cœur, dans la pensée, et ça se concrétise par des actes irrationnels. Les idoles, ça peut être des choses comme la musique. À Paris, vous connaissez l'Olympia et le Golfe Drouot. Ce sont des temples de la musique. Vous l'avez lu quelque part. Le stade Félix Bollard, c'est un des temples du football. Le salon de l'auto, c'est la grande messe de l'automobile, etc. Attendez, etc., etc. Il y a dans l'homme, à ce moment-là, une tendance à se tourner vers d'autres idoles que le Dieu vivant. On glisse de la vénération pour ces choses au fait d'adorer un autre Dieu. Troisième point, les idoles ont une importance qui n'est pas méritée. Jonas 2, 8. Quand mon âme était abattue en dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue dans son Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour toi, j'offrirai des sacrifices avec cris d'action de grâce. Et ça se termine par 2:11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quatrième point, les idoles sont impuissantes. Les idoles sont risibles. Ce n'est pas quelque chose de dangereux si on passe à côté, si on les laisse. Les idoles sont impuissantes et sont risibles. Alors, il y a un passage qui m'amuse un peu dans la Bible, dans les livres historiques, c'est 1 Samuel 5:1. Donc, les Philistins prirent l'arche, ils l'amenèrent dans la maison de Dagon, leur idole, et ils la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, s'étant levé de bonne heure, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Alors ils ont fait les réparations nécessaires, n'est-ce pas, hein, ils ont planté des clous, en fait, etc. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas les détails. Enfin, ils ont fait les réparations. Qu'est-ce qui se passe la nuit suivante? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? J'allais dire rebelote, c'est peut-être pas. De nouveau, la statue de Dagon tombe. Qu'est-ce que vous auriez fait? Imaginez 30 secondes, vous adorez un dieu qui s'appelle Dagon et deux fois, il tombe. On a mis dans le temple l'arche d'un autre dieu et le dieu que vous adorez, vous, deux fois, il tombe. Il y a peut-être des raisons de se dire qu'on est en train de se tromper, que ce n'est pas le bon Dieu, c'est le cas de le dire, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, il est ailleurs. Alors la suite, non mais moi, ça m'a toujours vraiment... C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent à la maison de Dagon ne marchent pas sur le seuil. On a vu que deux fois Dagon est parti au tapis, mais on continue à le respecter. Les idoles sont impuissantes, les idoles sont risibles, et c'est nous qui nous laissons tromper. Deutéronome 4,16, « Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous vous corrompiez, que vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, d'un oiseau, la figure d'une bête qui rampe, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux, veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Veille sur ton âme. Ce ne sont pas les idoles qui vont m'attraper, c'est moi qui risque de me laisser entraîner si je ne prends pas garde. Si vous allez en Afrique, du côté des régions tropicales ou équatoriales, il y a beaucoup d'animaux dangereux. Si vous traînez dans la savane, faites attention, il y a des lions et des tigres. N'allez pas vous baigner n'importe où, il y a des crocodiles. Ce sont des animaux qui risquent de vous attraper. Il faut faire attention. Les idoles ne nous attraperont pas comme un lion ou un crocodile, quelquefois, attrape un homme et en fait son 4 heures. Les idoles ne nous attraperont pas. Les idoles, c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est à nous de ne pas nous laisser entraîner. Sixième point, les idoles font du mal. Alors là, il y a un passage sur lequel j'aimerais bien développer. Jérémie 3, 24, 25. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Je vous laisse lire la suite. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles, nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Quand on désobéit à Dieu, on ne se rend pas compte toujours. Ça a des conséquences pratiques, matérielles. Ça coûte. Ça coûte. Tous les jeunes de 16 ans mettent leur nez tôt ou tard dans des revues qu'on appelle pudiquement des revues pour adultes, vous voyez ce que je veux dire, la sexualité, etc., etc. Lorsqu'on prend des libertés avec la sexualité, à première vue, ça a quelque côté sympathique, on défie l'autorité, on goûte aux fruits défendus. Lorsqu'on prend des libertés avec la sexualité, cela a des conséquences désastreuses et des conséquences matérielles désastreuses. Il y a une douzaine d'enseignants, pas moins, dans cette église. Vous leur demanderez ce que ça donne quand les parents font n'importe quoi, divorcent, s'échangent, ont des maîtresses ou des amants, etc., etc. Vous leur demanderez, je n'ai pas besoin de développer. Ça coûte. Les idoles ont dévorer le fruit du travail de leur père. Cela nous coûte de l'argent, du temps, du sang, de la sueur et des larmes, comme on disait pendant la guerre. J'aimerais vous donner trois exemples. J'ai honte, parce que ces trois exemples-là, vous les connaissez. Mais j'aimerais développer un petit peu. En ce moment, c'est le Tour de France en sport, vous le savez. Donc, le championnat de France de football fait entracte, c'est les vacances. Et les clubs sont en train d'acheter des joueurs. Il est tombé sous mes yeux récemment, le salaire qu'on va donner à un footballeur. 40 millions d'euros dans une année. 40 millions d'euros. Vous confirmez, frère ? Vous avez vu ce chiffre ? Alors moi, j'aime bien les calculs, j'aime bien calculer. Est-ce que vous savez combien gagne une infirmière ou un infirmier ? Oui, il y en a dans la salle. À 40 millions d'euros par an. Est-ce que vous savez combien de temps il faut à ce fouteux pour gagner le salaire mensuel d'une infirmière ? Allez, il n'y a pas de calculatrice dans la salle, mais à vue de nez, à la louche, comme on dit. Il faut combien de temps ? Non. Non. Alors, Daniel Varzécha a plongé, il a dit 5 minutes. Quand même pas, un peu plus, 20 minutes. 20 minutes. Lorsque vous serez malade, mes bien chers frères et sœurs, lorsque vous aurez votre vieux papa ou votre vieille maman à l'hôpital, lorsque vous aurez votre enfant gravement blessé, c'est M. Ronaldo qui fera quelque chose ? Nous vivons dans une civilisation où la personne qui s'occupera de vous quand vous serez malade, quand vous souffrirez, gagnera en un mois autant que certains joueurs de football en 20 minutes. Ça n'enlève rien à tout le dévouement du personnel hospitalier, depuis le professeur de médecine jusqu'aux aides-soignants et jusqu'aux agents d'entretien. Ça n'enlève rien. Mais malgré tout, nos malades seraient mieux soignés. Nos malades souffriraient moins si on détournait une partie de cette masse d'argent pour mieux payer les personnels hospitaliers et leur donner le matériel qui améliorerait leur travail. Les idoles ont dévoré le fruit du travail de leur père. Deuxième exemple, je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents d'élèves dans la salle, des gens dont les enfants vont à l'école. En ce moment, dans les supermarchés, on commence à acheter les fournitures scolaires. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là dans la salle ? Enfin, il y en a qui ont vécu ça. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les enfants ? Ils vous demandent un cartable à l'effigie de telle ou telle vedette, héros de dessin animé, etc. Et puis l'année d'après, ça change, donc il faut changer le cartable. Et ces cartables coûtent cher parce que l'entreprise qui fait ça doit payer non seulement les frais de la fabrication d'un cartable, mais doit payer aussi la licence, l'image. N'est-ce pas ? Si vous faites un cartable, si vous voulez commercialiser un cartable avec l'effigie de tel ou tel club de football, par exemple, il faudra payer en plus des frais normaux. Et vous avez des familles qui ne peuvent pas. Et vous avez des enfants qui vont à l'école la boule au ventre parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le dernier cartable à la mode, le cartable à l'effigie des idoles. Et quelquefois, pour ça, ils ratent leur scolarité. Il y a une publicité qui me serre le cœur. C'est une enfant qui dit « Mes copains à l'école, ils disent que ma maman ne prend pas bien soin de moi parce que je n'ai pas les chaussures de sport dernier cri. » Les idoles ont dévoré le fruit du travail de vos pères. À cause de ça, il y a des enfants qui ratent leur scolarité. Ces enfants-là, peut-être, auraient pu devenir de grands médecins, de grands chercheurs en médecine, et vous soulager quand ça sera important à l'hôpital. Ils auraient pu devenir des hommes d'affaires et créer des emplois. Cette mode stupide du cartable est en train de nous appauvrir. Alors, je ne vais pas vous faire la leçon, je ne vais pas vous dire vous avez droit à un seul cartable et la trousse. Non, que chacun se débrouille. Mais surtout, j'aimerais que tout le monde se rende bien compte des enjeux. Hein. Maintenant, évidemment, il faut céder quelquefois devant les jeunes. Je ne prends rien à personne. Et je me souviens, en parlant de cartable, alors c'était il y a longtemps, excusez-moi, c'était quand j'étais en quatrième, année scolaire 59-60. Je me souviens qu'un de mes camarades de classe arrivait au lycée avec un cartable qui était fait avec une feuille de cuir très solide, cousu très solidement avec une lanière. Le tout ne devait pas coûter plus que 10 €, enfin l'équivalent. Eh bien, jamais on lui a dit quoi que ce soit à ce gars-là. Alors, je n'aime pas les gens qui disent que c'était mieux avant, ça se discute, c'était mieux avant dans certains domaines et pas dans d'autres. Mais là, j'avoue, moi, vieux maître d'école à la retraite, je regrette l'époque où la valeur d'un écolier se mesurait à ses notes et à rien d'autre, pas à la marque de son cartable. Je regrette ça. Les idoles ont dévoré le fruit du travail de vos pères. et des familles se privent pour ça. Ah, au fait, si vous allez chez un soldeur ou dans un magasin de bienfaisance comme Emmaüs ou Saint-Vincent-de-Paul, eh bien, quelquefois, vous trouverez des sacs, des trousses, des fournitures scolaires avec l'effigie d'une idole déchue. Et ces sacs-là, vous les aurez pour presque rien. Au fond de la... Ne vous retournez pas maintenant, hein, mais au fond de la salle, vous verrez le sac avec lequel je suis venu. Je l'ai payé 1 ou 2 euros, pas plus. C'est une idole déchue. Je l'ai achetée chez Emmaüs. Pourquoi voulez-vous que j'achète quelque chose avec 60 euros ? Pourquoi voulez-vous que je mette 60 euros alors que je peux avoir la même marchandise pour deux ? Les idoles ont dévoré le fruit du travail de leur père. Excusez-moi de rentrer dans les détails comme ça, mais la Bible, ça a des prolongements concrets. Troisième exemple, les idoles nous amènent à une fausse identité et ça nous fait du mal. Alors là, je vais raconter une anecdote, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Vous avez entendu parler d'une actrice qui s'appelait Marilyn Monroe. Alors, un jour, aux États-Unis, une jeune femme a décidé de s'identifier comme Marilyn Monroe. Donc, elle s'est mise à se coiffer comme Marilyn Monroe, à parler comme Marilyn Monroe, à avoir à se coiffer, à s'habiller, tout comme Marilyn Monroe. Et comme Marilyn Monroe, elle est morte à 36 ans. Les idoles ont dévoré cette femme, lui ont fait perdre la moitié de son espérance de vie. Elle aurait pu passer 36 ans, elle aurait pu encore avoir des enfants. Elle aurait pu avoir des réunions de famille. Elle aurait pu faire du bien autour d'elle. Les idoles ont dévoré une grande partie de ce que Dieu avait donné, la vie. La Bible dit, vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas le sosie ou la copie ou le clone de Marilyn Monroe ou de n'importe qui d'autre. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Les idoles nous éloignent de Dieu. 1 Corinthiens 10, 8. 10, verset 8. « Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon ce qui est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Et vous avez « se divertir », c'est le contraire de « se convertir ». Et vous avez un exemple de divertissement qui tourne très mal. C'est lorsque les Philistins ont fait Samson prisonnier. Et ils disent, alors, ils offrirent un grand sacrifice à Dagon, juge 16-23, si vous voulez vérifier. Juge 16-23, ils offrirent un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, pour se réjouir. Et ils dirent, qu'on amène Samson et qu'il nous divertisse. Qu'on amène Samson et qu'il nous divertisse. Vous connaissez la suite ? Samson attrapa 2 colonnes. Et fit tomber tout le toit du bâtiment, et il y eut de nombreux morts. Alors, restons vigilants. Alors, je vais conclure maintenant, enfin, il y a encore quelques minutes, je vais dire toujours les mêmes choses. Premièrement, restons à notre place. Le Dieu dans lequel nous croyons est un Dieu d'ordre. Il veut que nous gardions chacun notre place. Psaume 115, verset 12-15, « Il a donné la terre, il nous a donné la place qu'il voulait pour nous. » La deuxième chose que nous lisons, que nous devons déduire, c'est « Restons vigilants. » Deutéronome 4-15, « Veille sur ton âme. » Proverbe 83, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et là, chaque fois que je prêche, je le dis, restons persévérants, ayons la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Si je ne suis pas déterminé à persévérer, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai derrière moi, dans une église évangélique, plus de 40 ans de vie d'église. J'en ai vu arriver des gens, tout feu, tout flamme, grands donneurs de leçons, et qui ont disparu quelques mois après. J'en ai vu plus d'un. Si je ne suis pas déterminé à persévérer jusqu'au bout, aucun prédicateur ne peut rien pour moi. Entretenez-vous. Alors là, c'est ou bien, il y a deux passages que je cite, c'est ou bien Éphésiens 5 ou bien Colossiens 3, 14. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, que la paix de Christ à laquelle vous avez été habité, appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Persévérons, entretenons-nous. Si je ne fais pas ça, personne ne peut rien pour moi. Vous pouvez aller chercher le meilleur prédicateur, il ne pourra rien pour vous. Vous pourrez aller chercher Billy Graham, le pape même, si vous êtes catholique, il ne pourra rien pour vous. Et une chose que je dis tous les printemps, ça va être la dernière fois aujourd'hui que je le dis pour cette année, il m'arrive souvent de dire, nous partons quelquefois, certains d'entre nous, en vacances. Ah, il y en a qui s'en souviennent. Pas en permission. Nous ne laissons pas nos armes spirituelles au râtelier comme un soldat qui part en permission, qui enlève son casque, qui enlève ses chaussures lourdes pour aller sur le champ de bataille, qui enlève sa cuirasse et qui s'habille comme vous et moi. Nous ne partons pas en vacances, nous partons en vacances, pas en permission. Même si je vais sur la plage de Saint-Tropez, je peux enlever un certain nombre de mes vêtements, pas tous. Faites attention, les gendarmes sont intraitables, il paraît. Hein. Mais même là, même si je suis en maillot de bain, je me dois de toujours garder mes armes spirituelles. Allez, on va réviser. Les armes spirituelles, j'écoute. Le casque du salut. Un. L'épée de la parole de Dieu. Deux. Les chaussures du zèle de l'évangile. La cuirasse de justice. Le bouclier de la foi. Et la vérité pour ceinture. On révise. Je vous renvoie à ça. Alors, si vous voulez vérifier, c'est Éphésiens 6, 13. Même si je pars dans un endroit, disons, qui n'a pas très bonne réputation, même si pour des raisons de famille, il m'était donné d'aller dans des endroits comme ça, il nous appartient de ne pas oublier nos armes spirituelles. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, dit la parole de Dieu. L'adversaire de nos âmes ne sommeille ni ne dort. Et lorsque nous nous croyons en sécurité et tranquille, c'est là qu'il essaiera de nous avoir. Par le Saint-Esprit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous te bénissons. Nous ne voulons pas des idoles. Nous ne voulons pas de toutes les tactiques de l'adversaire. Tu es notre Dieu, tu es notre seul Dieu, tu veux notre bien. Nous te louons et nous te rendons grâce. Amen.